Bookmakers.
Les écrivains au travail par Richard Guettet
sur Arte Radio.
Taisez-vous, calmez-vous. Je vais faire parler ce que vous faites. Vous êtes dermatologue. Vous emportez le soir des morceaux de peau dans votre appartement pour construire des lampes, pour recouvrir les livres, pour arranger les sauces, pour soigner votre arthrose, pour coudre des poupées. Vous êtes obsédé. Vous dites « Nous sommes recouverts, incapables de sortir, entourés sans arrêt d'une nappe, et vous avez raison. » Vous écrivez au hasard le soir dans la rue un message. Vous écrivez à qui ? Au premier numéro, 06 n'importe quoi. Vous donnez un conseil. Vous écrivez deux mots. Vous écrivez « Tais-toi ». Vous écrivez au marqueur, sur les portes des voisins. Vous écrivez sept mots. Vous écrivez « Un bébé n'est pas une graine ». Vous l'écrivez sept fois. Vous écrivez au tournevis sur l'arbre. Vous écrivez trois mots. Vous écrivez « Je veux aider ». Pourquoi vous écrivez ? Vous ne vous souvenez pas. Vous dites « J'aime quelqu'un ». Vous aimez qui ?
Entre 2014 et 2021, Laura Vasquez publie ses poèmes surréalistes dans de nombreuses revues, ou sous la forme de plaquettes aux titres étranges. Défense et illustration de rien. La vérité n'est pas un problème. Ou encore, la compréhension du langage de toutes les créatures, y compris les virus. Ces vers libres, peuplés d'êtres minuscules et de corps endommagés, sont parfois traduits en chinois, anglais, espagnol, portugais, norvégien, néerlandais ou arabe. La plupart figurent aujourd'hui dans l'anthologie intitulée « Vous êtes de moins en moins réel », vendu à 5000 exemplaires et qui ne contient pas un gramme d'autobiographie. L'autrice confie « Quand j'écris, ce n'est pas la personne limitée habituelle, avec mes goûts, mes envies, mes répulsions. Je tente de me débarrasser de toute forme de volonté. Je ne pense pas. Je suis une impression qui dépasse mes pensées. Il y a une vibration, comme le cœur d'un nourrisson. Je me relis et je me dis « Tiens, qui a écrit ça ?» Quand je disparais, la réjouissance est extraordinaire. C'est ce que doit ressentir une araignée qui fait bien son travail. Dans ce deuxième épisode, examinons comment cette tarentule qui n'abuse pas des virgules réussit à tisser, sur sa page, l'équilibre entre le sens et la sensation, la logique du rêve, sa pratique de la métrique, les leçons de l'Argentine Alejandra Pizarnik, la revue Muscle, qu'elle co-anime tous les deux mois depuis 10 ans, ou ses ateliers d'écriture hebdomadaires qu'elle a lancés sur Facebook en 2020 avec succès. Espérons que l'écriture, poursuit Laura Vasquez, soit parfois miraculeusement idiote. C'est Pouchkine, je crois, qui disait « La poésie doit être un peu bête ». Et je suis d'accord, bête comme un nuage, un acarien, une cellule, comme nous. Mais nous sommes recouverts d'une bêtise beaucoup moins intéressante. Et pour commencer, il faut retirer la crasse. Laura Vasquez, vous avez dit « La poésie, c'est une sensation qui me déplace. On ressent un tremblement, une vibration assez éloignée du sens, souvent, pas toujours, qui repose presque uniquement sur des sons. Et ça tient quand même. Le rythme est parfois plus signifiant que les mots. »
Il me semble que Emily Dickinson disait que quand elle lisait de la poésie, si c'était vraiment de la poésie, alors c'était comme si le haut de son crâne s'ouvrait. Marina Tsvetaeva, qui disait la poésie, le premier millimètre d'air au-dessus de la terre. C'est beaucoup renvoyé à des sensations comme ça, des impressions fortes, très fortes, ou légères. C'est vraiment ça, il y a une vibration. Je dirai plus aujourd'hui ce que j'ai raconté là sur le son. Ça repose surtout sur le son. C'est pas vrai. Quand un texte est juste, le son et le sens, on peut même pas les différencier. C'est exactement la même chose. Le fond et la forme n'existent pas. C'est une seule et même matière, tout à coup.
Vous ne rimez presque jamais. Pourquoi ?
J'aime beaucoup la rime. Et quand elle apparaît, c'est parfois malgré moi, puis je retravaille le texte pour que ça n'aille pas vraiment dans cette direction-là. Mais j'ai jamais vraiment travaillé de forme rimée, mais peut-être qu'un jour ça m'arrivera. Par contre, bien sûr, ça demande une technicité très importante. Et peut-être que c'est ça aussi qui m'a freinée. Et puis bon, c'est vrai que la rime renvoie aussi à une vision de la poésie un peu vieillotte, un peu rance. Peut-être que dans ma jeunesse, c'est surtout ça qui me freinait.
Quelle est votre connaissance de la métrique ? Est-ce une préoccupation pour vous ?
Dans le livre du Large et du Long, il y a beaucoup d'alexandrins, dans la Semaine perpétuelle aussi. Parfois, au moment de la relecture, je retravaille la justesse de ces alexandrins, par exemple en les brisant. Si un mouvement dans un de mes textes est trop régulier, je le brise. J'essaie d'aider le texte en apportant certaines petites nuances. Je les défais ou je crée à l'intérieur des phrases des bifurcations en allant, par exemple, vers un motif qui n'était pas apparu jusque-là. À un moment, le texte a besoin d'un revirement. Il est trop mou, il est trop installé, il s'est trop facilement accommodé de la situation. Alors, il y a comme une vague qui apparaît ou une petite tornade à l'intérieur. Et ça peut être de cette manière que je retravaille certains passages.
C'est quoi le pire pour un texte ?
Un texte qui cherche à se montrer auprès du lecteur ou de la lectrice, à lui dire « Regarde-moi, m'as-tu vu ? Est-ce que t'as compris que je suis comme ça ? Est-ce que t'as compris que je veux dire ça ? C'est bon, je te l'explique encore un peu. » Un texte qui fait ça, c'est vraiment, c'est catastrophique, quoi. C'est...
Vous appelez ça la langue qui fait sa belle ?
Oui, voilà, la langue qui fait sa belle. Oui, ça peut être la langue qui fait sa laide, hein, aussi. Le texte, complètement opaque, avec pas de prise. On n'a rien à quoi s'accrocher dans ce texte-là. Il est complètement lointain. La syntaxe est beaucoup trop brisé, tout est trop loin du sens, tout est sans harmonie, jamais. Et cette destruction, cette création d'une nouvelle langue dans la langue, bah parfois, ça peut être quelque chose de dangereux parce que ça touche plus du tout, ça touche plus personne. On laisse le texte s'éloigner du monde, s'éloigner des autres. Ça, c'est vraiment une forme d'égoïsme aussi. Hein. Ça vient pas de la langue, ça vient de l'auteur, hein, derrière ça. Hein. C'est vraiment typique.
Comme beaucoup de poètes, et contrairement à l'une des phobies des romanciers, vous procédez souvent par répétition, par ressassement d'un motif dans le poème et d'un poème à l'autre. Les visages, les squelettes, les fœtus, les couteaux, les pierres, les aiguilles. Vous tournez autour de ces images. En poésie, répéter, c'est OK.
Bah oui, bien sûr. Mais même en prose. Oui, moi souvent. Bon, tout à l'heure, je citais par exemple Thomas Bernhardt. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont travaillé la reprise. La reprise permet beaucoup de choses, hein, déjà d'un point de vue sonore. Hein. Mais la reprise permet aussi de creuser le sens, creuser dans l'épaisseur du sens. On prend un motif et puis on le voit d'une certaine manière, et puis d'une autre, et puis d'une autre, et puis on va encore plus loin, et puis on le tourne, et dans un sens différent. Ce motif-là, il disparaît, quoi. Il disparaît quasiment.
Mais vous n'y voyez pas une forme de complaisance, de facilité ?
Ça peut être parfois même une manière de ne pas écrire. C'est une manière de revenir, de tourner, de traîner, de pas écrire. Là encore, c'est de la peur. L'anaphore, par exemple, la répétition mal utilisée, est liée à la peur. Donc c'est une peur, c'est une volonté de contrôle de l'écriture. Bien sûr, quand je vois ça dans un de mes textes, je fais en sorte d'aider ce texte pour qu'il ne souffre plus de ce poids que je lui ai mis dessus. Là, vous en voyez beaucoup, mais sachez qu'il y en avait plus à la base.
Voici l'histoire d'un roi. Le roi cruel faisait couper ses ennemis par le milieu du corps, les enterrer vivants la tête en bas. Le roi jetait ses ennemis dans de grands bains de poix bouillante. Mais le roi aimait ses chiens et chiennes. Ainsi, ses chiens et chiennes l'aimaient. Et pour les éduquer, il se blessait lui-même. Quand le roi se blessait, c'était comme s'il blessait ses chiennes et chiens. Le roi se blessait, les chiens hurlaient, les chiennes hurlaient. Le roi disait « Quand je me blesse, je blesse mes chiens, mes chiennes, car je les aime. Je les élève au rang de roi. »
Laura Vasquez, le livre du large et du long.
Ce qui fait poésie, parfois, ce n'est pas la langue ou le sens des mots, c'est la disposition du texte sur la page. On revient à la ligne, sans ponctuation, sans majuscule, on met beaucoup de blanc entre les blocs tout petits, ou alors on énumère, on fait de longues listes. La question a l'air stupide, elle l'est peut-être. Comment décidez-vous s'il faut revenir à la ligne ou non? L'endroit où il faut couper la phrase?
C'est une très bonne question. Déjà, un poème, avant de le lire, on le voit. Comme un paysage qu'on interprète déjà. Si je vois deux vers sur une page, je ne vais pas avoir la même sensation que si je vois un gros bloc. Et comment je sais que je dois aller à la ligne? Ça se fait de manière complètement naturelle. À la manière d'un ostéopathe qui réglerait quelques zones du corps qui sont un peu bloquées. Crac, crac, ça va là, ça va plutôt là. Et je remets les choses dans un ordre qui est exactement, précisément, celui du texte, celui des vers, des phrases elles-mêmes. Et donc, j'ai juste à écouter, à regarder comment ça marche, à le sentir. Et donc, ça se fait tout seul, très naturellement. D'ailleurs, quand c'est pas fait naturellement, ça se sent.
Parfois, vous écrivez juste « je » et vous sautez trois lignes avant le prochain mot. Pourquoi s'affranchir de la ponctuation ?
Par exemple, les retours à la ligne marquent une pause équivalente à celle de la virgule. C'est parce que trois sauts de ligne sont tout aussi forts qu'un point. Dans certains textes, par exemple, il n'y a pas de majuscule non plus. Parce que le poème vu avant d'être lu, en tant que dessin, image, paysage, n'a pas besoin de ces aspérités que sont les majuscules. Et comme il n'en a pas besoin, alors je ne les mets pas.
Vos poèmes seraient-ils moins bons sans cette façon très libre et aérienne de se présenter sur la page? Si tous étaient écrits comme un bloc, comme dans un roman?
On perd l'espace, on perd les silences, une certaine musique, on perd du mystère aussi. Mais peut-être qu'on en gagne un autre, ça pourrait être une expérience intéressante de tout unifier en bloc et de voir ce que ça donne. Je pense que ce ne serait vraiment pas du tout probant comme test, mais il faudrait voir.
Les poèmes, et pas seulement les vôtres, sont rarement narratifs, au sens premier, avec un personnage identifié, des actions, un début, un milieu, une fin. Pourquoi?
Sans doute parce qu'ils peuvent s'en passer.
Vous avez dit une fois être capable d'écrire 4 ou 5 poèmes en un jour, c'est vrai?
Quand c'est un roman, donc des pages plutôt compactes, rassemblées, c'est plutôt 4 pages par jour. Quand c'est un livre de poésie, ça peut être plus, ça peut être 6, 8 pages. Mais bien sûr, tout ça est à retravailler. Et puis, un poème, ça peut être un mot. C'est très beau, un mot tout seul sur une page. Prenez une page blanche, mettez le mot cheval au milieu. Franchement, c'est magnifique. C'est pas très difficile de faire un poème.
Non, mais les gens qui nous écoutent pourraient dire « Mais vous foutez de nous, un cheval sur une page, c'est de la poésie ?» Non, mais franchement, la difficulté, c'est d'arriver à imaginer l'ensemble, le livre, qui justifie qu'à un moment, on ait une page avec juste le mot cheval au milieu.
Oui, c'est ça, exactement. Oui, oui. Le mot cheval dans un livre n'aura pas le même sens que dans tel autre.
Dans « Vous êtes de moins en moins réel », une anthologie de vos poèmes publiée entre 2014 et 2021 que vous dédiez à tout le monde, vous avez dit à propos de ce bloc de jeunesse « Je vois beaucoup de failles, beaucoup d'erreurs ». Quelles erreurs ?
Par exemple, on meurt près d'une rivière. Elle monte, nous emporte, ne monte pas, ne nous emporte pas. Ça, c'est très facile. Cette espèce de répétition, de chiasme, est d'une part assez faible, et d'autre part, cette absence de pronom, je la trouve pas juste, quoi. Elle monte, nous emporte, ne monte pas, ne nous emporte pas. Le « elle » apparaît en premier lieu, son absence est coquetterie. C'est presque toutes les pages, Mais d'ailleurs dans les derniers, dans les derniers livres aussi. Je vois aussi mes mécanismes de réflexion, de pensée, je vois mes tics, mes facilités personnelles, je vois tout ça quand je me relis.
Vous dites que l'artiste et écrivaine Marie-Laure Dagua, fondatrice des éditions Derrière la salle de bain, aujourd'hui dissoute, a été votre première éditrice. Vous la remerciez pour ça à la fin de votre anthologie poétique. Que vous a-t-elle apporté?
C'est la première personne qui a cru en ce que je faisais. Elle m'a écrit, elle m'a dit « Je vais te publier, envoie-moi ton texte ». Elle a publié un premier texte qui s'intitulait « À chaque fois » et un autre, et un autre, et un autre. Elle fait tout elle-même. Elle fait un travail très, très soigné. C'est une maison d'édition de poésie complètement indépendante. Il n'y a pas d'ISBN sur ces livres-là. Et elle se dédie complètement à ça. Mes textes, c'était peut-être pas encore tout à fait ça, mais je crois qu'elle a senti quelque chose en moi, et c'est un travail qu'elle continue de faire auprès de jeunes auteurs, de jeunes autrices. C'est quelque chose quand même d'avoir un premier texte dans un catalogue éditorial aussi beau. Aujourd'hui, sa maison d'édition s'appelle Maison d'Agua.
Depuis 2014, vous co-dirigez une revue de poésie, Muscle, qui sort tous les deux mois. Concrètement, c'est une feuille de papier recto verso avec la plupart du temps deux textes inédits de poésie contemporaine que vous pliez et éditez vous-même et qui donnent à la fin un rectangle bicolore un peu plus grand qu'un passeport. C'est vendu 3 euros en librairie et en ligne. Vous publiez des poètes très lyriques et anti-lyriques venus de Chine, des États-Unis, de Belgique ou du Mexique. Le dramaturge et romancier norvégien Jon Foss, qui figure dans votre panthéon, une conversation par mail entre Maggie Nelson et Björk, le génie autistique de Babouillac, un hymne féministe de Chloé Delhomme où les filles de Lilith ont un sourire de Napalm, ou le tout premier texte publié par un jeune gars de Marseille rencontré en atelier d'écriture. Combien en vendez-vous en moyenne ?
On les réimprime souvent. On en imprime 300 à chaque fois. Et puis, ils sont épuisés au bout de 2 mois à peu près. Quelques centaines, je dirais.
Ce qui permet de payer l'impression et les frais d'envoi.
C'est ça.
Vous animez Muscle avec la traductrice et poétesse germano-iranienne Roxana Hachemi. Vous avez dit « On aime bien chercher des textes, trouver des traductions, envoyer ces petits objets colorés par la poste. C'est notre moment d'amusement, une respiration. On essaie d'aider ce qui existe. » Pourquoi ce nom, Muscle ?
J'ai rêvé qu'on faisait une revue, et j'ai rêvé que cette revue s'appelait Muscle. Le muscle de la langue, ça se déplie tel un muscle, un mot fort, muscle.
Vous avez lancé la revue Muscle avec un autre poète marseillais, Arnaud Caléja. Né en 1975, il a étudié la philo et publié en revue depuis le début des années 2000. Ses textes sont assez fous, très directs, comme si son surmoi avait sauté, avec une immense capacité d'observation de nos grandes et petites tragédies individuelles. Je recommande très fort la lecture de 2 étranges romans, « Tu ouvres les yeux, tu vois le titre », publié en 2017 aux éditions Le Nouvel Attila, et surtout « La mesure de la joie en centimètres », publié en 2020 aux éditions Vent-Loup. Pourriez-vous nous parler de lui ?
Quand je suis arrivée à Marseille, au départ, je ne connaissais personne. Donc on m'a dit « Il y a un mec à Marseille qui écrit de la poésie, il est sympa, c'était Arnaud ». Et on est devenus copains, passer des références, je lui en passais aussi. Et puis on a fait Muscle ensemble. Et puis ensuite, Arnaud a déménagé, donc on se voyait un petit peu moins, et puis on a arrêté de faire Muscle ensemble. J'ai pas encore vu ses derniers livres, il faudrait que je les lise. Il faudrait que je le voie d'ailleurs, Arnaud. Il y a une rapidité dans son écriture qui m'intéresse beaucoup. Et on avait écrit ensemble des phrases toutes seules, ça nous intéressait beaucoup, ce travail juste sur la phrase.
En 2018, vous avez co-signé avec lui, aux éditions L'Arbre à Parole, un recueil de haïkus insolites, les astropoèmes, où chaque signe astrologique a droit chaque mois à des observations, conseils et prédictions. 12 fois 12 poèmes, où on apprend à ne pas oublier de mettre le cadavre dans la poubelle verte et à pleurer de préférence au-dessus du lave-vaisselle.
À distance, on faisait ça. On a commencé à publier des petits textes sur Facebook. On avait une page qui s'appelait les astropoèmes, donc on publiait chacun 2-3 petits poèmes par semaine, poèmes par signe.
En voici quelques exemples.
Balance. Pris sous le marteau des sentiments, il faut parfois se laisser aplatir. Vierge. Est-ce que vous voulez un fantôme pour votre anniversaire ? Gémeaux. Personne ne vous manque. Sagittaire, préparez-vous, vous allez reconnaître quelqu'un qui ne vous reconnaîtra pas. Bélier, dans la vie, il n'y a pas de circonstances, il y a du temps. Si vous êtes en retard certains jours, c'est parce que vous vous appuyez sur l'atmosphère avec plus de lenteur.
Quelle est la place de l'humour dans votre œuvre ? Est-ce un ingrédient que vous prenez en considération au moment d'écrire ou de corriger un poème ?
Je ris vraiment beaucoup quand j'écris. Alors, je sais pas si ça fera rire quelqu'un. Hein. Souvent, on me dit que mes textes sont durs, qu'ils sont sombres, que c'est difficile.
En fait, c'est vrai, mais il y a aussi de l'humour.
Quelque chose est drôle parce qu'il y a un revirement, un changement de direction très rapide.
Un chirurgien menotté, sa blouse couverte de sang, deux policiers le tenaient.
Je l'ai fait pour rien.
Le chirurgien criait aux caméras.
Je n'avais pas d'intention spéciale. Je l'ai fait gratuitement, vous entendez ?
Gratuitement.
Voici Maurice Lanzi. Depuis plusieurs années, Maurice Lanzi, chirurgien et chef de service, grave ses initiales sur les organes de ses patients. Maurice Lanzi a gravé des M et des L sur des estomacs, des pancréas, des reins, des rates, des vessies, des intestins, des cœurs et des cerveaux. Trois patients sont morts. Un patient a perdu la vue. Un patient a perdu la parole.
Je l'ai fait pour le fun!
Un patient ne peut plus bouger.
Vous m'entendez?
Un patient ne digère plus.
Pour le fun!
Le fun.
Laura Vasquez, La semaine perpétuelle.
En lisant votre postface aux œuvres complètes d'Alejandra Pizarnik, qui viennent de paraître chez Ypsilon Éditeur, j'ai eu l'impression de rencontrer votre vieux maître de kung-fu sur sa colline et l'un des secrets de votre art. Rappelons que l'Argentine Flora Alejandra Pizarnik, admirée de son vivant par son compatriote Borges, quitte l'Argentine en 1960 et arrive à Paris à 24 ans. En 4 ans, elle rencontre Simone de Beauvoir, Duras, Cortazar, puis rentre au pays, se consacre à la poésie, s'essaie au théâtre, à la prose, à la critique littéraire et se suicide à 36 ans par overdose de médicaments.
Eh bien, figurez-vous qu'elle ne s'est pas suicidée, contrairement à la légende. Elle est morte d'une embolie pulmonaire, quelque chose comme ça. Les premiers poèmes que j'ai lus étaient très aérés, donc avec très peu de mots sur la page. Un découpage à très petite échelle de la syntaxe, de la phrase, et de grande attention aux très petites choses, souvent piquantes, pointues, qui font un peu mal, et beaucoup d'humour. Dans son journal, beaucoup d'humour.
Vous écrivez à son sujet, formellement, elle répète des phrases, utilise de très petits éléments, une poupée d'os d'oiseau, un bébé inconsolable, des pépites d'or noir, des dents de tigre. Les parties du corps sont transformées en espace. Ma gorge est un archipel maudit. Ma tempe, le couvercle d'un puits immonde. Et plus important, je vous cite encore, il n'y a pas de sujet, pas d'unification calme, pas de conclusion arrêtée sur le monde, pas d'idée pouvant guider une existence. Les choses sont approchées par leurs contours, les bords de silence des choses. Ces phrases mettent en relief une épaisseur de l'ombre. On croirait l'autoportrait de votre poésie.
Il n'y a pas de volonté d'expliquer ce qui surgit. Et puis, il n'y a pas de renvoi à soi, à une interprétation individuelle des choses, suivant un ordre social déjà établi. C'est beaucoup plus baigné de mystère, de lumière. On reconnaît aussi sa métrique, ses découpages. Donc oui, c'est une écrivaine qui a compté pour moi.
Je cite encore votre postface, décidément très éclairante. Dans cette œuvre, écrire n'est pas s'exprimer. Ce n'est pas se dire soi-même, se définir et se nommer. C'est le poème qui fait le poème. Elle a la certitude pour toujours d'être de trop. Ce ne sont pas des désirs de mort, dites-vous, mais au contraire un surplus d'existence, un désir d'intensité. Elle disait « Je veux exister au-delà de moi-même avec les apparitions ». Ce principe central que vous répétez depuis 2021 dans toutes les interviews ou presque que j'ai pu lire de vous, le refus de l'autobiographie, du narcissisme, c'est chez elle que vous le trouvez ?
Non, pas du tout, non, ça c'est pas venu par Pizarnik, c'est venu naturellement. Mais oui, je partage avec elle ça. Toutefois, je n'ai rien contre l'autobiographie, l'autofiction. Proust, par exemple, est mon écrivain préféré, enfin un de mes écrivains très importants.
Vous ne pourriez pas envisager un jour d'écrire sur votre enfance, votre famille, vos amours ?
Oh non, pas du tout, non. Le récit de ma vie, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Je sens un danger dans ces zones-là parce que ces zones-là réduisent les choses.
Il vous arrive de lire en public des poèmes de l'écrivain et dramaturge chinois Heizi, que vous avez co-traduit avec
Binjie Luan.
D'origine modeste, Heizi s'est suicidé à 25 ans en se jetant sous un train en 1989. C'était un mystique, un lyrique, un lecteur de la Bible, des romans de Conrad et de Walden ou la vie dans les bois. Il souffrait de solitude, d'hallucinations auditives et il s'est mis à écrire frénétiquement suite à une rupture amoureuse. Parlez-vous chinois ?
Pas du tout.
Quelle est donc votre participation à la traduction de ces poèmes ?
Bingji Luan, qui est une copine chinoise, à qui j'ai demandé « Alors, il y a quoi d'intéressant là, à lire en chinois ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Quel auteur tu me recommanderais ?» Elle me disait « Il faudrait absolument que tu lises Aizy. » Mais il n'y avait aucune traduction disponible. Alors, je lui ai dit bah, « Faisons-le, on va le traduire. » Donc elle ne parle pas parfaitement français. Et moi, je ne parle pas du tout chinois. Donc on a fait une sorte de traduction bâtarde, un peu de mot à mot. Puis elle faisait des traductions par phrase. Et puis je reconstituais une cohérence syntaxique de la phrase. On faisait des allers-retours comme ça, elle et moi. Et on est arrivé à la traduction d'un ensemble de poèmes. Certains ont été publiés dans la revue Muscle, d'autres dans la revue Gnoc. La nostalgie de la dernière vie. Chuang Tzu lave sa main dans l'eau. Ensuite vient un grand silence sur la main. Chuang Tzu lave son corps dans l'eau. Le corps est un morceau de tissu. Sur ce tissu, le bruit de ce qui flotte sur l'eau se colle. Chuang Tzu voulait se mélanger discrètement avec la bête qui fixe ses yeux sur la lune. Les eaux s'étendent, pouce par pouce, autour du nombril, comme des branches. Chuang Tzu et moi peut-être, quand il touche la peau de l'arbre. Il commence à se sentir familier de son corps. Familier. Familier et angoissé. La lune m'a touché.
Qu'est-ce qui vous touche là-dedans ?
L'espèce de netteté des gestes. Des espèces de zoom sur la main, le corps. Et puis ensuite, la présence du narrateur qui se dit que celui qui l'observe est peut-être lui.
Vos poèmes sont traduits en chinois, en anglais, en espagnol, portugais, norvégien, néerlandais et arabe. Votre livre « La main de la main » sera publié en mai 2025 aux États-Unis. Vous avez un agent qui vous représente à l'étranger ? Comment est-ce que ça parvient à circuler si bien ?
Non, je n'ai pas d'agent, ni à l'étranger, ni en France. Mes textes ont beaucoup été publiés en revue, donc dans plein de pays différents, et en anthologie aussi. Ce sont des personnes qui s'intéressent à ce qui se passe en France et qui me contactent. Est-ce que tu voudrais m'envoyer un texte pour ma revue ou est-ce que je peux traduire tel passage de ton texte ?
Combien vous êtes payé ?
Ça dépend, mais c'est pas grand-chose. Hein. Des fois 50 euros, des fois 100 euros, et parfois 0 euros aussi.
Sur votre site, il y a un onglet dans lequel sont notés vos rêves, des dizaines et des dizaines et des dizaines de rêves de ces 3 dernières années. Noter ses rêves, c'est toujours un bon réflexe littéraire.
Dans un rêve, par exemple, on est là, on est dans une pièce, on parle, il y a une forêt qui pousse à notre droite. Ben, ça ne nous dérange pas. Ou tout d'un coup, je parle à quelqu'un, mais cette personne se transforme en quelqu'un d'autre. Ça m'étonne, mais je l'accepte, parce que je suis dans un rêve. Cet espace-là, d'accueil de tout, de retournement, est très très proche de celui de l'écriture, de celui du roman, de l'espace du poème. Donc, j'essaie de garder un lien avec mes rêves. Le matin, je les note, mais souvent sous forme de bribes. L'interprétation ne m'intéresse pas du tout. Ça ne deviendra jamais un livre.
Je peux vous demander d'en lire une petite salve ?
Si vous voulez. Sur la couverture de mon livre, il y a le nom de quelqu'un d'autre. Mon éditeur me dit « Ne vous inquiétez pas, on ajoutera votre nom sur un bandeau. » Roxana découvre que je regarde un site qui s'appelle « Histoire lesbienne ». Je lui dis « Et alors, j'aime ces histoires. » On m'accuse d'avoir tué des cochons. Je crie « Je ne suis même pas capable de tuer un moustique qui tourne près de mes oreilles la nuit. » Sur un miroir, quelqu'un a gravé le mot « simple ». Mes nièces m'accusent. Jade me parle. Elle me montre un bracelet. Une écrivaine m'écrit une lettre méchante. Elle commande des muscles sans payer. Elle me dit « Je veux tel et tel numéro. » Ah ouais, ok. Je jette sa lettre à la poubelle et je me demande pourquoi les gens sont si méchants. Un homme spécialisé dans le temps me dit « ça passe plus vite que prévu ». Poursuivi par des chasseurs, je me cache dans un buisson avec Patato. Il y a une tourterelle avec nous. La mort, célibataire. Les meilleurs ouvriers de France finissent par faire des baguettes et des petits gâteaux pour Emmanuel Macron. Une fille qui écrivait des textes très mauvais écrit des textes assez bons. Je lui demande « alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu as lu quelque chose qui t'a changé ?» Elle me dit « non ». Mais son amie me dit « elle s'est beaucoup disputée ».
Pourquoi les mettre en ligne ?
Je les mets en ligne surtout pour en garder une trace. Et puis, je trouve que c'est pas mal, ces narrations filantes, avec des rebondissements presque à chaque phrase.
Fin mars, la médiathèque de la ville où vous avez grandi, le Soleil, a été rebaptisée à votre nom. Et en septembre, une seconde médiathèque Laura Vasquez sera inaugurée dans l'autre ville où vous avez grandi, Villeneuve-de-la-Rivière. C'est ça le plus grand des honneurs, être reconnue comme la poétesse des lieux de son enfance ?
Ah, vous avez su ça ? Oui, c'est quelque chose qui, bien sûr, m'a touchée. C'est un symbole assez fort, pour ma famille surtout. Pour mes parents, pour mes grands-parents, qui étaient tous des immigrés espagnols. Le fait de donner cette médiathèque le nom d'une femme, une femme vivante, qui ne rentre pas tout à fait dans les normes attendues, c'est quelque chose d'assez fort. Et voilà, je n'y donne pas plus de sens que ça.
En 2020, lors du premier confinement, vous avez lancé des ateliers d'écriture en ligne, ouverts au plus grand nombre. Il suffit de s'inscrire via votre site ou sur Facebook. Et depuis, tous les samedis matins, vous envoyez un mail aux inscrites et inscrits avec une consigne pour produire du texte. Aujourd'hui, environ 3000 personnes y participent. 3000 chaque semaine ?
C'est plutôt 5000, mais 5000 personnes inscrites, mais pas 5000 personnes qui y participent systématiquement. Les participants et les participantes échangent leurs textes et se les commentent les uns les autres. Les personnes écrivent ce qu'elles veulent, comme elles veulent. Je ne fais rien des textes reçus, je dois dire que je ne les lis même pas parce que ça me prendrait trop de temps. Il y a une personne qui est très assidue, qui participe à mes ateliers depuis le début, Benjamin Milazzo, et qui, lui, a créé une revue à partir des ateliers d'écriture qui s'appelle la revue Miroir et qui publie des textes écrits dans le cadre des ateliers d'écriture. C'est une revue web et une revue papier.
Vous animez également des ateliers d'écriture pour enfants à Marseille.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Tous les jours dans une école primaire avec des CE1, CE2. Ça dure 20 minutes par classe, donc c'est très court. Donc on se connaît très bien, donc on s'aime beaucoup, on rigole beaucoup. J'aime beaucoup la manière dont les enfants reçoivent les textes, les idées, même les consignes, la manière dont les choses sont interprétées par eux. Et à chaque fin de séance, je demande un volontaire ou une volontaire pour raconter une histoire. Donc soit une histoire libre, inventée, soit une anecdote. Il y a un rapport beaucoup plus direct aux choses, aux objets, et puis beaucoup de questions aussi sur le monde, sur la vie. Les choses sont questionnées par les enfants, ce qui nous semble, nous, courant et normal, ne l'est pas toujours encore pour eux. Ça laisse beaucoup de place pour inventer des choses ou pour écrire. Donc ils écrivent très très lentement. 4 lignes, le temps d'une séance, mais 4 lignes, parfois magnifiques, vraiment un texte très fort, très puissant, parfait, rien n'a changé. Ça, c'est un poème.
Vous animez aussi des ateliers à l'université, dans des écoles d'art, des collèges, des lycées, en prison, dans les centres sociaux, mais vous n'avez jamais participé vous-même, en tant qu'élève, à des ateliers d'écriture. Vous êtes trop solitaire dans votre travail, dans vos recherches, trop occupé. Quelle est votre discipline d'écriture ? Est-ce tous les jours, du matin au soir, dans un bureau fermé, sans bruit, solitaire, à 100 %?
Je mets des boules qui est et puis j'écris. C'est tous les matins, sauf le dimanche. J'écris alors en fonction de l'étape de travail du livre, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ensuite, à 12h30, je pars, je vais faire l'atelier, je reviens, je lis ou je prends des notes, je travaille mes notes que je classe dans un logiciel très simple d'utilisation qui s'appelle Obsidian, qui dessine ensuite des cartographies, qui fait des liens entre les mots, qui fait des liens entre les concepts. Et ensuite, en général, je prends un peu l'air. Je fais soit du sport, soit je fais de la méditation. Je vais au dojo zen de Marseille, je fais zazen. Et le soir, j'ai un petit temps très court, entre 10 et 30 minutes, d'écriture de poésie.
Quand on vous demande un conseil pour une jeune personne qui voudrait se lancer dans l'écriture, vous répondez « D'abord, je l'inviterai à lire jusqu'à avoir envie d'écrire. Ensuite, je lui conseillerai de ne pas juger ses propres textes. Il s'agit de soigner sa relation avec le texte. J'ai mis beaucoup de temps à dépasser ce blocage. J'écrivais avec une sorte de souffrance, de frustration. Puis j'ai changé et mon écriture a pris une autre tournure. Pourriez-vous développer cette idée, ce qui vous a permis de dépasser ces blocages ?
C'est une crise existentielle. J'ai été très très mal. J'étais en Suisse à ce moment-là d'ailleurs. Je faisais une résidence à la Fondation Michalski. J'avais 3 mois de résidence. Je me suis dit, je vais arriver là-bas, je vais écrire un roman, ce sera mon premier roman. Et j'étais devant mon document Word, vide. Et je savais pas. J'avais quelques idées, quelques scènes, quelques images, mais je savais pas. Et j'étais complètement perdue et tout ce que j'écrivais me semblait terriblement mauvais, terriblement faux, dans un état vraiment de frustration, de peur, de colère. C'était un mélange. Un jour, je me suis dit, je vais arrêter. Voilà, j'arrête. Simplement, j'arrête. Je ne sais pas faire ça. Peut-être que Dostoïevski ne savait pas non plus. Par exemple, quand il a écrit Les Frères Karamazov, ce qu'il savait, ces envolées-là. Peut-être qu'il ne le savait pas. Donc je me suis dit, voilà, je ne sais pas. Je vais juste écrire tous les jours. Maintenant, ça suffit. J'écris tous les jours, tous les matins, de telle heure à telle heure. Je coupe la distraction, je coupe tout. Je me mets devant mon document Word et je prends ce qui vient. Et je vais le faire tous les jours et ma satisfaction viendra de là et pas du texte. Ma satisfaction viendra d'avoir fait de mon mieux chaque jour. Si le texte est mauvais, c'est pas grave, j'ai fait de mon mieux. Le texte me semble bancal, je sais pas où il va, c'est pas grave, aujourd'hui j'ai fait de mon mieux. Le texte est génial, merveilleux, waouh, c'est pas grave, j'ai fait de mon mieux. Parce qu'on peut y croire quand on se dit « Ah, c'est merveilleux », puis après derrière c'est très difficile. Je vais pas faire autre chose. Je vais écrire, modestement, si je puis dire. Ça m'a sauvée à un moment. Ça fait quoi d'être frustré envers ce qui compte le plus dans la vie ? On devient quelqu'un d'invivable, on fait du mal autour de soi, on est une personne dure, on juge. Enfin, ça a entraîné vraiment beaucoup de désagréments dans ma vie, de destruction. Faire de son mieux chaque jour a complètement sauvé mon écriture parce que j'étais en train de la détruire, tout simplement. J'étais en train d'essayer de la contrôler, de la tirer dans tous les sens, de lui faire du mal. Parce que, bien sûr, quand on écrit, c'est comme quand on fait du sport, on peut se blesser. On peut se blesser en écrivant si on tire trop sur tel mouvement, si on court trop longtemps ou trop fort. Ou... Je me blessais tous les jours, je me critiquais, j'insultais mes propres textes et moi-même. Enfin, c'était terrible. Et puis j'avais une vision du monde et des choses toutes petites, toutes réduites à travers ça. Si l'écriture avait une place secondaire dans ma vie, je pense que j'aurais pu continuer longtemps comme ça et peut-être là, déformer mon écriture jusqu'à ce qu'elle donne un livre, et sans doute un très petit livre d'ailleurs. Mais là, l'écriture avait une telle place totale, complète dans ma vie, c'était si important pour moi, c'était tellement tout, que forcément ça pouvait pas durer. Forcément il fallait passer par cette crise-là, existentielle, et tout recommencer.